dit, il faut l'aider à faire son casting gouvernemental. Donc on va en parler avec lui. On va en parler en deux temps. D'abord, est-ce qu'il doit recruter à gauche? Et puis après, on vous demandera quelles sont vos idées pour l'équipe gouvernementale de Michel Barnier, Emmanuel De Villiers, Didier Giraud, ma chère Joëlle Dagosséry. On sait d'ores et déjà qu'il y a une personnalité qui est prête à y aller. Elle nous l'a dit hier sur le plateau de BFM TV, Olivier Hamon, entre 17h et 19h dans BFM Story. C'est Madame Royal.
J'ai pas été appelée. Mais est-ce qu'il cherche vraiment des personnalités de gauche? Je ne sais pas. S'il cherche des personnalités de gauche, cela voudra dire qu'il est effectivement pas sectaire, comme il l'a dit. Et qu'il n'oublie pas qu'il est là aussi suite à un vote des Français sur un front républicain. J'avais moi-même dit que j'étais disponible pour Matignon dans le cadre d'un gouvernement d'union républicaine. Donc s'il cherche à faire un gouvernement d'union républicaine, c'est une bonne chose. Et en tout cas, si jamais je suis contacté, je regarderai également sans sectarisme.
Et oui, Ségolène Royal, prête à rentrer dans un gouvernement Barnier. Pour l'instant, c'est la seule personnalité de gauche qui publiquement le fait savoir. Il faut savoir que les barons de la gauche, ceux qui tiennent les partis, ont décidé, pour certains, de ne même pas rencontrer Michel Barnier. C'est le cas d'Olivier Faure pour le Parti Socialiste. Il ne veut même pas voir Michel Barnier avant son discours de politique générale. En revanche, les communistes vont voir Barnier. Est-ce qu'il faut effectivement que Michel Barnier, homme de droite, face à un gouvernement et des personnalités de gauche?
32-16 pour le dire au GG, aux grandes gueules, bien sûr. Emmanuel De Villiers.
Pour Olivier Faure, on peut peut-être envoyer Alain Marchal qui lui ressemble un petit peu. Non, plus sérieusement.
Il est plus rigolo, Alain.
Et on est né le même jour.
Plus sérieusement, c'est une bonne idée d'avoir des poids lourds, même si on les qualifie un peu de chevaux de retour, d'avoir des poids lourds de la vie politique française de droite et de gauche dans ce gouvernement très particulier de coalition. Il faut un peu refaire les Barnier Globetrotters, parce que même Madame Royal, on parle de pourquoi pas, il est parfois caricaturé, mais Jean-François Copé, il faut des gens qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir aussi aider au passage à éviter le renversement du gouvernement, car ce sont des gens qui ont des relations et qui ont une expérience. Donc il faut être pour la formation de ce gouvernement parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et Michel Barnier était de loin la moins mauvaise solution. Il a beaucoup d'allure, une incarnation de l'État enfin digne.
Donc Ségolène Royal, par exemple, tu dis pas non, toi?
Non, pourquoi pas? C'est pas du tout mes opinions, mais au point où on en est, c'est ça ou le chaos. Et je te l'avais dit, Olivier,
oui,
tu verras aux cérémonies à l'étoile, Michel Barnier passant les troupes en vue, crois-moi, ça aura de la gueule.
Joëlle Dagosséry.
Je ne sais pas s'il ira jusque-là, jusqu'au 8 mai.
Parce qu'il est chef d'état-major.
Il va faire le 11 novembre.
Tu veux dire qu'il est chef d'état-major?
Il va faire le 11 novembre, tu as raison. Il va peut-être faire le 11 novembre.
C'est marrant comme le fait d'éviter de se faire renverser est devenu maintenant l'objectif numéro 1. C'est incroyable. Alors c'est ça maintenant. Mais nous, on en rêve même plus. C'est fini, on est au bas, on est au ras des pâquerettes. Il faut juste ne pas se faire renverser et c'est bon.
Oui, ça fait
changer la France. Non, ah ben non. Améliorer l'état de la France, non pas du tout, mais ne pas se faire renverser, ah oui, c'est ça, ça c'est ce qu'on veut maintenant. Ouais. Non mais s'il te plaît, ayons un peu plus d'ambition. Honnêtement, pour moi, la gauche n'a rien à faire dans ce gouvernement. Pas parce que c'est la gauche, non, pas du tout. Parce que tout simplement, il faut avoir un peu de dignité. On lui a volé et raflé sa victoire, entre guillemets, en tout cas le fait qu'elle soit arrivée en tête pour mettre un Premier ministre de droite. Donc la gauche, pour faire quoi dans ce gouvernement? C'est pour mener quelle politique? Parce qu'il ne s'agit pas juste de nous faire du en même temps ou de l'ouverture, du gouvernement d'ouverture, juste pour dire on a pris un peu de ça, un peu de ci, etc.
Non, mais
ça n'a pas marché sous Sarkozy. Non mais ça n'a pas marché sous Sarkozy, qui nous avait fait un gouvernement d'ouverture. Ça n'a pas marché avec Emmanuel Macron qui était en même temps. Je vois pas pourquoi avec Michel Barnier. Oui. Certes, il est très beau. Certes, il est très grand. Il a beaucoup d'allure. Il passe les revues entre les troupes en revue. Mais je vois pas pourquoi. Lui, tout d'un coup, avec lui, ça marcherait. Non, ce qu'il nous faut, c'est une ligne claire. Assumer. On a pris un ministre LR avec 47 députés. Bah, assumer qu'ils prennent des gens.
Voilà, en fait, ce que tu souhaites, c'est qu'ils soient renversés demain matin pour pouvoir remettre le curseur à gauche.
Bah non, parce que
tu souhaites que ça, en fait, Joël.
Mais pas du tout.
Ah bon.
Je veux pas remettre le curseur à gauche. Je veux une ligne claire. Je veux qu'on arrête de me raconter n'importe quoi de coalition.
Oui, mais là,
on
peut pas. Avec
d'ouverture.
La composition de l'Assemblée, on est obligé de poser, comme on dit.
Écoute, Emmanuel Macron a choisi un ministre qui était de droite, qui avait que 47 députés, bah, qu'il aille jusqu'au bout de sa logique.
Et qui n'était pas d'ailleurs issu du Front Républicain. C'est en quand plus, même, pardon Didier, le hold-up du siècle. Hein. Ah bah, les LR.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça,
Olivier. Qui était au fond du trou. Qui, en plus, n'ont pas participé au Front Républicain, qui, grâce à ça quand même, grâce au Front Républicain, ont eu plus de députés que prévu, parce qu'ils en ont profité un peu comme tout le monde, d'ailleurs, du Front Républicain, sur le RN. Et là, coup de bol, et tout d'un coup, l'un d'entre eux se retrouve Premier ministre. Qui aurait pu imaginer que Michel Barnier serait peut-être le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron, et avec un gouvernement qui sera majoritairement LR. C'est un hold-up formidable. Mais moi, c'est pour ça que j'adore la politique, parce qu'en politique, ça se passe jamais comme c'est prévu.
Attendons de voir le gouvernement avant d'être certain. Et là, c'est pas un Premier ministre LR, c'est une personnalité. En tant que personnalité, il n'a pas été recruté.
Dans tous les cas, Emmanuel, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Juste pour résumer, et pour ceux qui nous écoutent et qu'on attend au 32-16, Emmanuel dit qu'on a besoin de gens qui soient capés, qui soient solides vu la situation politique actuelle. Donc, s'il faut recruter à gauche des gens d'expérience, prenons-les, ce que dit Emmanuel. En revanche, Joël, toi, tu es plutôt sur non, on a pris un type qui vient de la droite, eh bien, il fait avec son gouvernement de droite, il est cohérent, on y va, quitte à ce qu'il tombe, mais il reste sur cette logique. Didier Giraud.
Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites, Olivier et Joël. C'est qu'aujourd'hui, celui qui a volé l'élection au peuple de gauche, comme vous dites, c'est d'abord et avant tout l'attitude des LFI, quoi. Parce que les noms à gauche, ils n'ont pas été foutus de se mettre d'accord. Et peut-être qu'il y aurait un Premier ministre.
C'est pas en contradiction à ce qu'on raconte.
Peut-être que s'il n'y avait pas ces fous dans la coalition du nouveau Front Populaire, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait un Premier ministre de gauche. Après,
parce que Mélenchon, il n'a pas envie d'être au pouvoir. Mélenchon, il
faut se mettre à la place de Macron aujourd'hui. Il a été chercher le plus petit dénominateur commun. Il compose, il va composer largement. À titre personnel, si on pouvait s'éviter Ségolène Royal à l'environnement, ça m'arrangerait, quoi. Voilà. Après, derrière ça, moi, je suis...
À l'intérieur, il faut la mettre à Beauvau.
Non, mais j'en sais rien, mais qu'il y ait quelques personnalités de gauche.
Quand, même.
Quand j'écoute Hollande qui dit jamais ça, eh ben, moi, je trouve que c'est une attitude qui n'est pas responsable. Parce que les gens modérés dans le nouveau Front Populaire devraient Hollande participer à ce gouvernement.
Et même Hollande, il devrait y aller. Pourquoi il n'y va pas?
Mais parce qu'il n'a pas envie de se rabaisser à être
attendez, là, ça mérite une explication. Pourquoi tu veux qu'Hollande y aille?
Parce que c'est une personnalité avec une expertise, il est quand même...
Qui amènerait de la stabilité à gauche.
Au-delà de l'humour et du côté manœuvrier. Il a un savoir-faire politique, une
expérience. Donc en fait, toi, tu veux le retour de l'ancien monde.
Donc il faut collationner les anciens membres de personnalité pour que le système tienne et qu'on ait une élection présidentielle digne de ce nom avec une vraie campagne électorale.
Tu vois, tu vois un François Hollande qui n'a pas pu se représenter, qui devient ministre. C'est complètement utopique, mais enfin, qui devient ministre d'un Premier ministre de droite, Ségolène, sous l'autorité d'Emmanuel Macron, qui est devenu son pire ennemi.
Ségolène, ça te choque pas, par contre.
Oui, mais je suis sur François Hollande. Un descriptif qui est. Son politicien.
Mais non,
là, s'il s'agit de la France.
Oh, mais arrête avec ça.
Mais
ils ne pensent pas à la France, ils pensent à leur carrière.
Emmanuel,
ils pensent
à la France.
C'est incroyable, quoi, tu fais.
Même s'ils ne pensent pas à la France, les problèmes, ils
arrivent. Pour la grandeur de
la
France, allons chercher les perdants. Allons chercher ceux qui ont foutu la
merde.
Donc, on va aller chercher les perdants. Ceux qui ont foutu la merde.
La France,
ceux qui nous ont ramenés dans cette situation.
C'est eux,
parce qu'ils sont capés, parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher la politique, parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Alors, on leur donnerait une petite prime. Tiens, et tu sais rien faire de ta life.
Je serais Barnier aujourd'hui.
Prime, tu vas être ministre.
La prime, mais on est où là? Tu vois, Joël, fort de ton analyse, que je souscris un peu, je serais Barnier aujourd'hui, devant le refus de la gauche modérée de gouverner, eh ben, j'irai chercher des ciotistes. Parce que c'est ça qui va lui amener de la stabilité et qui peut-être va lui sauver la tête durablement et qui va permettre à cette majorité de coalition de pouvoir gouverner dans le temps. J'irai essayer de raccrocher le bloc Rassemblement National. Parce que contrairement à ce que vous dites, le peuple de gauche, depuis des mois maintenant, depuis le 7 juillet, ceux qui ont vraiment gagné l'élection, avec le parti, le parti qui arrive en tête en termes de parti et pas de coalition de briquet de broc, ça s'appelle le Rassemblement National. Et aujourd'hui, Barnier, s'il veut durer dans l'exercice, eh ben, faut qu'il montre des signes à ces gens-là. Et je pense que ça serait sûrement intelligent pour lui d'aller chercher deux ou trois ciotistes. Je dis pas d'aller chercher Chenu au gouvernement, mais il va chercher deux ou trois ciotistes, ça amène un signe. Et puis, voilà, la gauche, elle veut pas gouverner. Ça fait depuis le 7 juillet qu'elle nous montre qu'elle veut être dans l'opposition, la gauche. Eh ben, elle y reste dans l'opposition. Et du coup, Barnier, il prend deux ciotistes, il fait des LR, tout le monde va dire qu'il est minoritaire, et puis il les emmerde, et il va faire une politique, et il avance. Voilà.
C'est-à-dire qu'avec chaque ligne rouge de chaque tendance politique, Barnier, il est un peu dans l'image de la boîte, de la personne avec les lances, les épées, qu'on met dans tous les sens. Lui, il est dans la boîte, Mais comme il est très bon et qu'on n'a pas d'autre choix, avec son 1m90, il finira par ressortir de la boîte.
Bah, il est très bon.
S'il n'est pas en rondelle. S'il n'est pas en rondelle.
Il est très bon, maintenant, il faut. Il est très bon, voir. On ne sait pas. On l'a pas vu encore. Ça n'a quand même pas été un ministre de premier plan, Michel Barnier. Donc,
oui, mais il a un discours apaisé, il a de l'expérience.
Oui, mais ça, je suis assez lent. D'accord, mais le somnifère, ça va à un moment.
Ah oui.
Il va falloir
même
aussi.
Il y a quelqu'un qui renverse la table. Là.
Après, je sais qu'il
faut passer dans le concret.
De toute manière, que ce soit Barnier ou un autre, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens d'agir véritablement. Donc, la mission de Barnier, c'est de faire un budget, c'est de voter un budget. J'ai vu qu'il voulait aller sur le grand âge. Ça peut être consensuel, une loi sur le grand âge. Donc, des lois consensuelles, mais les vrais problèmes de la France, c'est-à-dire la réforme de l'État, la réforme de la fiscalité,
voilà.
Le fait que notre pays s'appauvrisse, qu'on ne produit pas assez, tous les économistes se disent, un problème de productivité, on est en train de décrocher sur les Américains, etc. Des vrais problèmes de fond. Mais Barnier ou un autre, il ne le réglera pas parce qu'ils n'ont pas de majorité.
Alors, qui les réglera ?
Voilà.
Alors, on a
Emmanuel Macron nous a mis dans une situation impossible.
Kader Dali qui nous appelle de Meurthe-et-Moselle. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors, mon bonjour. Cher Kader Dali, fidèle des GG, qu'est-ce que vous en dites ? Alors, est-ce qu'il doit aller chercher à gauche ?
Alors, pour moi, bon, on sait que la politique, c'est pas une science exacte, hein, on le sait, on l'a vu. Mais pour ma part, hein, je pense que Macron a réussi à la particularité de nous avoir fait une Assemblée nationale qui ressemble à la 4e République, donc avec plusieurs partis. Mais au fin fond de moi-même, j'aurais aimé qu'on ait un Premier ministre qui fasse un gouvernement de sa tendance comme ça, parce que le Français ne comprend plus rien en fait. Le Français n'est pas un puriste politique. En même temps, il ne marche pas dans la tête des gens. Vous allez dire à un gamin, tu vas au lit, mais en même temps, tu as le droit de regarder la télé. Donc je pense qu'on ne va pas y arriver. On a essayé de faire le en même temps politique, même si c'était bien avant le en même temps macroniste, hein, c'était à l'époque de Sarkozy, qui a essayé de mettre du Kouchner, qui a essayé de mettre un peu de gauche. Moi, je pense qu'il ne faut pas un gouvernement de centre ou de centre-droit. Et puis après, à la prochaine étape, on vote pour ce gouvernement ou non.
Mais le gouvernement de centre, c'est ce qu'on avait déjà. C'est-à-dire que rien n'aura changé.
Non, parce que c'était pas du centre. C'était un boogie-boulga de beaucoup de choses.
Oui, bah, mais c'était du centre. Ça s'appelle le centre.
Non, ça s'appelle pas le centre. En France, il y a une bipolarité politique. On peut pas dire le en même temps. C'est parce que vous êtes rentré dans la tendance politique.
Non, il n'y a pas de bipolarité. Il y a trois blocs. Il y a aujourd'hui un bloc central. Il y a un bloc droite radicale et un bloc de gauche.
Parce que l'échiquier politique a bougé. Sinon, à l'époque, on appelait ça soit de gauche, soit de droite.
Non, à l'époque, le centre était obligé de choisir un
camp.
Et donc, choisissait la droite. Oui. Aujourd'hui, le bloc central, il a sa propre existence.
Macron l'a rendu visible.
Voilà. Et c'est les Français qui ont décidé, hein, pardon. Hein,
Les Français n'ont pas décidé Barnier, on est d'accord.
Non, mais ils n'avaient pas décidé non plus spécialement Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure.
Tout à fait, mais
Jordan Bardella.
Alors que je ne suis pas de gauche, hein, mais les Français n'ont pas décidé du tout de ce qui arrive là. Pas du tout.
Bien sûr.
Voilà.
Mais en fait, le problème, c'est que les Français n'ont pas vraiment décidé. C'est ça le problème.
Ah, bah si, ils ont décidé, on les a fait bouger, ils ont été votés.
Non, ils ont décidé
de ne pas trancher.
Au premier tour, ils ont décidé de mettre en premier Bardella, enfin le Rassemblement National, et au deuxième tour, ils ont décidé que finalement, ils ne voulaient pas de Bardella Matignon.
Voilà, c'est la deuxième fois en deux mois, Bardella.
Kader Dali, on va continuer la discussion, mais déjà, on va regarder le résultat de la question qu'on a posée à ceux qui nous suivent. Est-ce que Michel Barnier doit recruter à gauche ? Surtout pas à 71%. Surtout pas 71%.
Parce que la France est à droite. Ça représente d'ailleurs l'échiquier politique. Hein. Effectivement, la gauche aujourd'hui en France, c'est 29-30%. Voilà.
Dans un instant, Kader Dali.
C'est un tiers de l'Assemblée nationale.
On va continuer de discuter et voir quelles sont vos propositions. Quelle personnalité ?
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Charles Magnin.
RMC, Charles Matin.
En cette rentrée, j'ai la recette pour bien attaquer ce mois de septembre. On va être tous ensemble dès 4h30 pour toute l'info en direct, évidemment, toute l'actu sur RMC avec une équipe de choc. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel. Ils sont tous là, évidemment, les invités, l'info, les chroniques. Et vous, plus que jamais, au 32-16, votre réveil avec le sourire et toute l'info. Ça se passe dès 4h30 dans Charles Matin sur RMC.
Cette semaine, c'est l'Open Glow Rennes, le tournoi majeur de tennis en Bretagne avec RMC. Au Liberté à Rennes, fêtez les 18 ans de l'événement de la rentrée. Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Pierre Hugerbert, qui remportera l'Open Glow Rennes. Rendez-vous cette semaine. Place des 4 euros sur opendorennes.org avec RMC.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec vous au 32-16. Joël Dagosséry, Emmanuel Devilliers, Didier Giraud, un agriculteur, un chef d'entreprise, une coach de ville à Saône-et-Loire, le Pas-de-Calais et puis Paris qui sont représentés aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. On va continuer de discuter politique avec nos grandes gueules et surtout avec vous au 32-16. Parce que c'est bien beau, Michel Barnier.
RMC, les grandes gueules.
Parce que Michel Barnier doit composer son gouvernement. Alors, majoritairement, très majoritairement, c'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller chercher à gauche. On ne veut pas qu'il aille chercher à gauche. Mais du coup, s'il doit aller chercher à droite et peut-être un peu au-delà de la droite,
au centre aussi.
Au centre, quelle personnalité pour aller dans le gouvernement de Michel Barnier ? Alors, qui vous verriez entrer au gouvernement de Michel Barnier ? Venez continuer d'en discuter avec nous au 32-16. Parmi les personnalités aujourd'hui dont la France aurait besoin, tiens, par exemple, Emmanuel Devilliers.
On ne peut pas réinventer des noms que personne ne connaît. Je pense à Bruno Retailleau, que personnellement j'ai fréquenté depuis 40 ans.
Son nom est cité.
Oui,
c'est bon, il revient dans la liste.
Alors pourquoi ?
Pour aller à l'intérieur,
pourquoi ?
Notamment.
Parce que c'est quelqu'un qui a énormément de bon sens. Et d'autre part, ce qui a souvent manqué dans le travail des ministres, il va au fond des choses. C'est-à-dire qu'il décortique les problèmes, il va au fond des choses, et après il croise avec le bon sens, et donc il prend les bonnes décisions, le tout en tant que travailleur acharné. Donc je pense que s'il est à l'intérieur, ou comme garde des Sceaux, voire à l'économie, c'est quelqu'un qui fera le meilleur travail possible.
Didier, je suis en train de réfléchir de quoi j'aurais besoin de façon très égoïste. J'aurais voulu quand même qu'à l'agriculture, ça soit quelqu'un qui vienne d'une zone d'élevage, quoi. Il y a aujourd'hui besoin d'un rééquilibrage. Il y a besoin de la promulgation de cette loi d'orientation agricole qui a déjà commencé la navette parlementaire, mais qui l'a pas fini faute de dissolution.
En raison de la dissolution.
Et du coup, aujourd'hui, l'élevage souffre. L'élevage en France est en train de disparaître par manque de vocation, par pénibilité du métier, par la concurrence internationale. Donc moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui connaisse le monde agricole, qui vienne d'une région plutôt d'élevage, et puis qui soit à même des politiques européennes. Enfin, il y a aujourd'hui quelques gros dossiers à l'Europe. Et donc voilà, c'est un peu le profil. J'ai pas le nom qui me vient, mais si on cherche des anciens députés européens...
Est-ce qu'il faut des techniciens, justement,
minimum,
des experts de leur domaine ?
Un minimum, si tu veux pouvoir peser sur ton administration. Enfin, on le sait bien, on fait le constat ici toutes les semaines. La grande paralysie de la France, c'est d'abord et avant tout que c'est des énarques qui sont d'IRCAB et qui sont dans les ministères qui commandent et qui passent par-delà la politique... que veut conduire un ministre. C'est un des grands problèmes de la France, c'est que ce sont les administratifs qui gouvernent. Donc
C'est
pour ça qu'on peut se passer de gouvernement. Mais si tu veux avoir un ministre qui pèse, qui amène sa patte sur ce qui va se passer concrètement, il faut qu'il maîtrise le sujet. Et moi, j'ai toujours considéré que les ministres, ils sont pas interchangeables, que le ministre de la Santé, il peut pas se retrouver au budget et puis derrière revenir à l'agriculture et vice-versa. À un moment donné, j'ai connu ça, que le ministre de l'Agriculture, il se retrouve au transport. C'était Bussereau qui avait fait agriculture-transport. De Normandie, qui avait été un très bon ministre pour nous, il arrivait du logement. À un moment donné, je trouve que c'est quand même pas très sérieux qu'il soit au courant de tout.
Et puis changer les ministres aussi tous les 4 matins.
Et puis les échanger, quoi. Le jeu des chaises musical, pour moi, ça montre que techniquement, ils sont pas au top. Qu'ils s'appuient sur un staff d'IRCAB et toute l'administration.
Nommé par d'autres, d'ailleurs.
Et que c'est eux qui font la politique. Et ça, sur le fond, ça m'énerve, quoi.
Joël, t'as des noms ?
Oui, moi, j'en ai qu'un seul, c'est David Lisnard, si on va à droite, que j'aimerais qu'il rentre au gouvernement. Et j'aimerais qu'un nouveau ministère, ou un ancien ministère revienne, qui est l'aménagement du territoire, parce que je trouve qu'on n'a plus de vision pour ce pays. On a des territoires qui sont de plus en plus inégaux, des répartitions qui sont de plus en plus inégale. Et donc, j'aimerais avoir un ministre qui pense ça. Je trouve qu'il est bien parce qu'il est président de l'AMF, donc il connaît très bien les territoires, il connaît très bien les maires. Et donc, je pense qu'il a cette vision globale de ce qu'on devrait faire. Ou sinon, à l'économie, où j'aimerais le voir aussi, parce qu'il comprend que ce qui nous tue en tant que. Lorsque tu es un chef d'entreprise, un tout petit, même comme moi, c'est aussi la paperasserie, les charges, tout ce qui est de la bureaucratie, tout ça. Donc, voilà, j'aimerais qu'il aille vers ses ministères.
Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis.
Tu dis
Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché son ancrage local, qui a toujours fait, avant de devenir sénateur et de faire un peu parler de lui.
Il est d'abord Vendéen.
Voilà, il est d'abord Vendéen. Tu dis David Lisnard, c'est le maire de Cannes, c'est le président de l'Association des maires de France. On se souvient que on défilait notamment chez Emmanuel Macron bon nombre de présidents de région, Carole Delga, Renaud Muselier.
Delga, elle vient de dire non. Hein. Elle a dit ce matin qu'elle ne voulait pas la présidente.
Mais est-ce que ça doit être un gouvernement PS
d'Occitanie.
Est-ce que ça doit être effectivement un gouvernement d'élus de terrain, ancré dans la réalité du terrain, beaucoup moins parisien, beaucoup plus girondin que jacobin, quoi, en fait, c'est ça.
Il en faut, et l'idée de Joël est intéressante parce que Lisnard participerait de ce que j'évoquais, de la stabilisation de ce gouvernement, de sa flottaison, puisqu'il a des relations nationales. Non, il faut un gouvernement de poids lourd,
mais pas trop.
Également de sachant, autant que possible. Il y a la problématique de la représentativité géographique. Quand on croise tous les critères, on comprend que ça prenne du temps.
Parce
que c'est presque une équation impossible. Mais
oui, bon, enfin, il ne faut pas que Michel Barnier non plus prenne autant de temps qu'Emmanuel Macron. Oui, moi, j'ai un peu peur de ça. Parce qu'on a attendu déjà plus de 50 jours pour un Premier ministre. Il ne faudrait pas que Michel Barnier, qui a plutôt bien démarré, attende trop longtemps. On nous dit que ça ne sera pas avant dimanche ou lundi prochain. Parce que plus ça va être long, plus on va commencer à douter de Michel Barnier, de sa capacité à faire preuve d'autorité, de savoir trancher aussi, de faire un casting, parce que c'est compliqué. Mais à un moment donné, il faut trancher. Et j'ai peur que Michel Barnier... soit tenté, comme l'ont été avant, de faire des trucs d'ouverture, etc., avec des choses gadgets, avec tiens, regardez, j'ai une bonne prise. Moi, je pense que les Français, ils en peuvent plus de ça.
Nicolas Hulot, à l'environnement, il a rien fait.
Il a même fait la taxe carbone qui a entraîné les Gilets jaunes. Je rappellerai toujours Nicolas.
Mais il a rien fait concrètement
des Gilets jaunes.
Il reste quoi du bilan de Nicolas Hulot?
Rien. Mais donc, tu sais, la prise de guerre, t'es content, les journalistes s'en battent, c'est génial, bravo, quel talent. Et en fait, les Français,
on a le droit de mettre un veto.
Sur quoi? Sur qui?
Kouchner.
Je pense que il n'y a plus que toi qui y penses là aujourd'hui, Borloo, Emmanuel Davidier.
Le retour de Borloo.
Ce que tu dis aussi sur le temps qui dure pour former le gouvernement, moi il y a un élément que je trouve juste,
c'est pas possible
à entendre, c'est qu'à un moment donné, c'est l'arbitrage entre les partis, quoi. Quand t'es dans une coalition comme ça, faut donner à bouffer à tout le monde.
Bah oui.
Et ça, c'est toujours au détriment de la compétence. Au détriment de la compétence. J'ai quelques exemples concrets, entre autres, comment la Macronie a composé sa liste aux européennes, l'arbitrage entre partis, parce que c'était des gens la Macronie. L'arbitrage entre partis a coûté la place à quelques personnes qui étaient quand même compétentes, et il n'y en a pas tant dans la Macronie.
Tu vois, parce que la gauche a dit qu'elle n'irait pas. Il faut se trouver des personnalités, et les gens majoritairement n'en veulent pas. Mais
est-ce que ça était libre?
Voilà.
Ségolène.
Alors, il y avait Ségolène Royal. Il y a le nom d'Arnaud Montebourg qui revient comme ça
Je change mon joker. Je rouvre la possibilité de Kouchner et je le mets sur Montebourg.
Pourquoi?
Le ministre du redressement productif. D'abord, rien que ce titre qu'il avait accepté, c'était invraisemblable. Un adolescent n'aurait pas accepté de se faire nommer ministre du redressement productif, puis quoi encore. Et puis, il n'a rien fait. C'est un exhibitionniste. C'est un bonimenteur, il a du talent, il a de la verve, mais là franchement non. Si on veut brasser de l'air, allons-y, oui.
Mais ce qui est drôle, c'est que ça rend fou. Hein. Le Canard Enchaîné nous explique aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez lu, que Aurore Berger, à un moment donné, qui est donc ministre actuellement macroniste, pensait aller à Matignon. Et donc elle s'était préparée, elle avait fait tous les plateaux télé, etc. Elle pensait qu'elle faisait partie de la shortlist, et en fait, elle a fait une confusion. En fait, on parlait de Laurent Berger. De la CFDT, qui effectivement, une fois de plus, a été sondée, une fois de plus, a dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Et Aurore Berger pensait qu'on parlait d'elle. C'est terrible et c'est cruel. Mais tu dis que ça les rend dingues, cette politique.
Je dirais même que le bâton de Berger était plus attendu que Aurore Berger. À quel point ils sont narcissiques et à quel point ils se pensent importants.
Une anecdote amusante, c'est qui m'avait dit, c'est un grand journaliste un jour qui m'a dit ça, j'ai oublié qui. Mais je vais essayer de vous expliquer en un mot. Il m'avait dit, regardez l'histoire de la politique française dans les années depuis 30 ans. Il y a aucune carrière de grand politique qui se termine bien. On peut détailler, ça se termine toujours mal. Oui. Bah, toutes les carrières de grands politiques.
Donc, celle de Michel Barnier, ça va mal se terminer alors, si je te suis.
Ça va se terminer bien alors.
Soyez optimiste, toute règle a ses exceptions.
Il y a une autre règle, c'est que les deuxièmes mandats des présidents servent à rien et se terminent mal. De Gaulle n'a même pas été au bout de son second mandat. Ouais. Mitterrand, souvenez-vous, le second mandat, il le finit avec une cohabitation. Il y a toutes les affaires sur Mitterrand, le livre de Pierre Péan. Enfin, c'est une catastrophe. Souvenez-vous, Chirac est déjà affaibli. Il fait plus rien. On l'appelle le roi feignant. Chirac, deuxième mandat. Les deuxièmes mandats, il y a une malédiction en France. Et peut-être que Emmanuel Macron, il est en train d'être touché par cette malédiction.
Mais toi, tu appelles ça une malédiction, mais moi, je pense que c'est aussi l'usure du pouvoir.
Il n'y a qu'un seul mandat, en fait.
Et ouais. Ouais.
Un mandat de 7 ans, alors.
Ouais, je pense que le quinquennat renouvelable, c'est une connerie. Ouais.
Si tu n'as pas fait les choses en 5 ans, tu ne les feras pas 5 ans.
Non, parce que les grandes réformes, soit tu les attaques quand tu es élu, que tu as une majorité à l'Assemblée, soit tu les attaqueras jamais. Non. Si tu commences, parce que c'est ce qui s'est passé avec Macron, à proposer des grandes réformes pour être élu, tu as la majorité des godillots, comme on les appelait, qui est tellement écrasante que tu pourrais faire la 7e République d'un coup. Mais tu le fais pas parce que tu as en tête d'être élu derrière.
Exactement.
Et je pense que ce mandat renouvelable de 5 ans, c'est une connerie, quoi. Hein, parce que ça, il se fait, depuis qu'il est en place, il se fait encore moins de réformes que du temps du quinquennat, quoi. Hein, parce que du temps du septennat, ils avaient tous en tête peut-être d'être réélus, mais au moins il y avait 7 ans, donc ils attaquaient les réformes quand même au début de leur mandat.
Il y a un nom qui revient aussi, c'est celui de l'actuel gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gaillot. Ah ben ça y est, Emmanuel de Villiers, à chaque fois que je donne un nom, il lève les mains comme ça.
Le gouverneur de la Banque de France, c'est un type qui est dans un palais, qui emmerde les PME pour avoir
des
statistiques qui servent à rien. Parce que quand on a une PME, on est appelé sans arrêt par la Banque de France, puisque comme le franc a été supprimé, les gens sont restés en place. Oui. Maintenant, ils font que des statistiques qui ne servent strictement à rien et où on peut répondre n'importe quoi. Mais par contre, si on répond pas, on est menacé de sanctions. C'est des statistiques surtout. Qu'est-ce que vous allez investir l'année prochaine? Pourquoi vous n'avez pas embauché? Et le gouverneur, il est au sommet de ça.
Très bien payé.
C'est un ambassadeur du pognon.
Un palais super.
C'est un des plus beaux fromages de la République.
Ce qui est l'équivalent de la Galerie des Glaces en plus petit du 17e siècle. Et si on veut vraiment... Sauf si on veut endormir tous les Français avec des comptes du gouverneur. Mais
Jacques Maillot disait toujours, le jour où on a créé l'euro, on aurait dû supprimer la Banque de France qui ne sert plus à rien puisqu'on a une banque européenne maintenant. La Banque de France n'a plus le pouvoir.
Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. On a cité des noms comme ça. Vous-même, vous êtes observateur de la vie politique. Quelle personnalité vous verriez bien arriver, alors, mon cher Laurent?
Alors, surtout aucun de gauche. Hein. Quand on regarde la crise énergétique qu'on a eue, on peut remercier les anciens, hein, les Voynet, les Hollande, les Ségolène Royal et toute la clique. Donc aujourd'hui, il nous faut des spécialistes, il nous faut des gens qui n'ont pas peur. Il faut faire une opération commando, tant pis s'il y a une censure. Moi, je vois bien que vous disiez Monsieur Retailleau, Monsieur Lisnard. Je verrais même quelqu'un comme Monsieur De Villiers qui a la France vissée au corps. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre
lequel? Ils sont trois.
Les trois. Vos armées, un ici et un à l'intérieur. Comme ça, ça va avancer. Là.
Bah oui, pourquoi pas. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il faut des chefs aujourd'hui. Il faut des chefs et des troupes qui sont derrière leurs chefs. Aujourd'hui, M. Macron, c'est un génie. Il vient de détruire la gauche. Il a détruit tout le reste, il a détruit la gauche. Donc aujourd'hui, on peut reconstruire le paysage politique. Et surtout pas de président de certaines régions. Parce que ce sont des petits barons qui jouent leur avenir, ils veulent tous une place à côté d'Isnogoud, et ça commence à bien faire. il nous faut aussi être républicains, on peut pas tolérer des appels à l'intifada en France. Il faut remettre l'église au milieu du village aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces vives, il nous faut des gens qui soient désintéressés et qui pensent au pays. On est beaucoup de Français à penser comme ça, beaucoup de chefs d'entreprise. Et il faut que ça bouge, sinon un jour, c'est nous qui irons migrer vers d'autres pays. Des pays intéressants aujourd'hui. Il n'y a pas que des exilés fiscaux, mais ça devient un problème. Donc aujourd'hui, voilà, on sait qu'il faut remettre l'éducation. Vous avez vu, LFI. Et puis il faut sortir LFI du jeu parlementaire aujourd'hui.
Ah ben bah, les Français...
Les gens-là ne veulent pas du pouvoir, mais c'est le théorème du chaos de Mélenchon. Et aujourd'hui, là, pourquoi la France elle freine? Ben, c'est parce qu'on a ce genre de personnes aussi qui ne veulent pas que le pays avance. On va pas revenir en 1917 comme en Russie. Il faut aller de l'avant. On est en train de tout perdre. On perd nos industries. On a failli tuer notre indépendance énergétique. On est en train de tuer nos paysans. Hein, on exige à des paysans qui ont déjà des kilomètres et kilomètres de haies d'en planter alors que des grands céréaliers n'en ont pas. On continue à en détruire. Faut arrêter. Là, dans deux ans, c'est les municipales. Chez nous, ça rase gratis. Ça baisse les tarifs de cantine. Ça met des plans. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va payer, à part peut-être les propriétaires fonciers qui vont continuer à être la vache à lait à payer tout ça. Donc non, aujourd'hui, il faut remettre les choses en place. Il faut faire des économies partout. À l'hôpital, il faut peut-être un peu moins d'administratifs et un peu plus de soignants. Hein, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on paye le double ou le triple une infirmière aujourd'hui qui est dans une agence d'intérim parce qu'on ne veut pas la payer supérieure au SMIC.
Et on prolonge la guerre en Ukraine alors qu'on devrait imposer la paix.
Vous avez vu ce qu'a dit le patron à ce sujet-là, parce que Laurent vous tend une perche, je vais aller dans votre sens. Vous avez vu ce qu'a dit le patron de l'assurance maladie ?
Mm-hmm. 30%
des arrêts maladie ne sont pas justifiés. Ils ont pris 260 000 personnes qui étaient en arrêt maladie. Ils ont s'en aperçu que c'est le patron de l'assurance maladie qui le dit, hein, c'est pas 30%.
Mais pourquoi on n'y fait rien ?
30% d'arrêt maladie qui n'étaient pas justifiés.
Elles
sont là, les économies.
Non, mais quand on
c'est
a fait ce constat, les gens qui ont un arrêt maladie pas justifié, on les lourde du système. Les médecins qui ont signé des arrêts maladie de complaisance, on les lourde du système. Parce que faire le constat, c'est bien, mais à un moment donné, il faut résoudre le problème, quoi. Hein. Et quel est le ministre de la Santé qui va attaquer de lourder de l'ordre des gens qui ont fait des arrêts de maladie de complaisance?
En tout cas,
celui qui va y attaquer, je pense qu'il mérite une médaille. Parce que
c'était le
bien des courageux pour le faire.
Pourquoi le coup de gueule de Laurent avec nous,
ah
Laurent?
J'avais encore un petit truc à dire.
Je vous en prie, je vous le laisse.
Allez-y.
Eh bien, je pense aussi à une grosse source d'économie. On met tout le monde. Aujourd'hui, la fonction publique, on la met sur le privé, avec les mêmes salaires. On supprime les primes, on aligne tout. Ils payent des mutuelles, ils auront leur cotisation retraite, leur cotisation sécurité sociale. Et ils auront les salaires, on supprime les primes, mais on remet les salaires au même niveau. Et vous verrez, on fera des économies.
Merci Laurent, coup de gueule de Laurent qui veut qu'on remette la France en route, la France en marche, l'ami Laurent. Les grandes gueules continuent dans un instant avec vous au 32-16. On va revenir sur le député France Insoumis Sébastien Delogu à l'Assemblée Nationale qui lit un texte et il a été raillé sur les réseaux sociaux, Sébastien Delogu, avec des difficultés de lecture. Est-ce que c'est du mépris de classe ? À tout de suite au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien footballeur.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
RMC Running. Dimanche 15 septembre, testez-vous sur le 50e semi-marathon Auray Vannes. Relevez un défi personnel ou encouragez les coureurs sur le parcours breton du golfe du Morbihan. Toutes les infos sur auray-vannes.com. Le 50e semi-marathon Auray Vannes, dimanche 15 septembre, avec RMC.
RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Le 29 septembre à Saint-Cloud ou connecté depuis le lieu de votre choix, rendez-vous à la course Enfants sans cancer avec RMC. Un événement festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la recherche. Inscrivez-vous vite sur enfantssanscancer.com. La course Enfants sans cancer, le 29 septembre à Saint-Cloud ou en connecté avec RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Je me permets de vous donner déjà la troisième heure des grandes gueules. À partir de 11h, nous serons avec Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National, le député du Nord, pour quand même commencer à évoquer cette rentrée parlementaire qui s'annonce copieuse, risque d'être animée et rythmée. Et puis on terminera à midi moins 20 sur la question des polices municipales. Parce que quand on regarde globalement les polices municipales en France, il y en a 40% simplement qui des agents qui ont des armes, on va dire, létales. Enfin, qui ont des armes de poing, quoi. Alors, est-ce qu'il faudrait armer toutes les polices municipales ? Bien, toutes. On en parlera tout à l'heure à midi moins 20. D'abord, continuons de parler, enfin, politique, parler d'un député, Sébastien Delogu.
RMC, les grandes gueules.
C'est le député de la France Insoumise et Nouveau Front Populaire des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, qui a été moqué sur les réseaux sociaux à cause de la lecture d'un texte à l'Assemblée.
Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement National, le fameux « en même temps » a montré qu'il était un, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser, se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leur service public.
C'est spontané, voilà, Sébastien Delogu qui lit donc ce texte et qui s'est retrouvé au centre de toutes les moqueries sur les différents réseaux sociaux.
Oui, il y a eu beaucoup de moqueries, notamment du côté du Rassemblement National, mais pas seulement sur les réseaux sociaux. L'élu de Marseille accusé d'être analphabète et la réponse qui a été apportée par ses amis de la France Insoumise, c'est qu'il s'agissait en fait de mépris de classe qui s'exprime contre lui et qui était odieux parce que Sébastien Delogu n'a pas fait l'ENA. C'est un chauffeur de taxi hein, au départ. Il s'est fait connaître d'ailleurs à Marseille en étant à la tête d'une révolte de chauffeurs de taxi contre les VTC. Il a été repéré à l'époque politiquement. Il a été chauffeur Jean-Luc Mélenchon. Il s'est présenté ensuite à la députation et est devenu député de Marseille. Il a été réélu la fois dernière dans les Bouches-du-Rhône. Alors, est-ce que c'est du mépris de classe ? Une petite explication, on a l'impression quand même, en regardant et en l'écoutant, qu'il lit un texte qu'il découvre, qu'il n'a peut-être pas lu avant. C'est peut-être ça l'explication aussi, c'est que on lui a donné ses collaborateurs un texte et on a l'impression qu'il le déchiffre en même temps.
Joël,
j'ai trouvé ces moqueries proprement odieuses, vraiment odieuses. Bien sûr, politiquement, j'ai pas grand-chose à voir avec Monsieur Delogu, mais là n'est pas le problème. Si vraiment, déjà, il y a une vidéo qui était un peu truquée parce qu'ils ont ralenti
exprès
le rythme exprès, donc ça donnait vraiment l'impression du coup qu'ils savaient pas lire. Alors que à vitesse normale, bon, on voit bien qu'il lit, mais il bute sur les mots et on ne sait pas si c'est parce qu'en fait il connaît pas, il sait pas ce qu'il lit, ou si c'est parce qu'il sait pas lire. Mais manifestement, c'est pas fluide, en tout cas, au niveau de la lecture. Mais je trouve qu'on n'a pas à se moquer de ça. Il y a beaucoup d'enfants, je dis d'enfants, mais même d'adultes, qui ont des problèmes de lecture, qui sont pas tous députés. Je dis pas non, mais il y a pas à se moquer de ça. J'ai trouvé que même la classe politique, notamment le RN, quand on a vu la qualité de certains de leurs candidats à la députation,
ils se vengent,
qui savaient pas aligner deux phrases en français, qui ne connaissaient rien, je pense qu'ils devraient avoir un petit peu d'humilité et se calmer sur les moqueries. Donc ce député, on peut lui reprocher certes de pas travailler, ça apparemment il découvre un texte. Et bien sûr, on aimerait avoir des personnes qui savent lire et qui savent écrire correctement et qui savent comprendre surtout ce qu'ils lisent. Mais il ne faut pas non plus, comme en France on le fait, donner tout d'un coup des
trophées. Est-ce que c'est du mépris de classe ?
Non, je crois pas. Je crois que l'illettrisme, ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont peut-être dyslexiques, qui ont du mal à lire, etc. Et il n'y a pas à se moquer de ça. Il n'y a vraiment pas à se moquer de ça, parce que ça ne fait pas plaisir.
Cyril,
j'ai vraiment pas aimé cette séquence.
Oui. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Joël est assez clémente. Vous l'êtes moins, Cyril de Calvados.
Oui, tout à fait. Je suis moins par rapport à deux personnages comme Sébastien Delogu et Louis Boyard, en fait. Car c'est des gens qui font des influenceurs politiques, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils cassent tout le monde sur les réseaux. Et à un moment donné, on assume ses erreurs. On peut pas faire YouTube. Là, il a fait récemment YouTube pour casser Hanouna. Il casse tout le monde. Il a même dit que les gens qui passaient chez Hanouna, ils n'étaient pas très intelligents.
Oui,
donc à un moment donné, si on respecte pas les uns, on peut pas avoir les erreurs. Ça arrive. Mais on peut pas être méprisant comme ça tout le temps envers tout le monde, en fait. Et
donc ça se retourne contre lui aujourd'hui.
Exactement.
C'est le karma, en fait. C'est le karma complet.
On se souvient de son attitude à la tribune de l'Assemblée nationale, vous savez, où il avait dit au Benjamin du Rassemblement national, t'es fada ou quoi, toi tu me touches pas. Enfin, on se souvient de ça.
Il y a ça,
il a quand même quelques affaires aussi. Le couloir de bus, il y a pas très longtemps là, qu'il s'est fait choper dans le couloir de bus. Et moi, je pense que pour être respecté, faut d'abord être respectable, quoi. Hein.
Bah, tout à fait. Vous voyez, quand il a méprisé le jeune du RN, quand il a voté, on a cru qu'il allait le manger sur place, en fait. On peut pas avoir cette attitude. Si on a cette attitude-là, demain, les erreurs qu'on va faire, que ce soit sur les réseaux sociaux, il va prendre des vagues, en fait, obligatoirement.
Donc, il récolte un peu ce qu'il a semé, quoi, en fait.
Bah, moi, je pense que c'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure. Si Jérém Star faisait sa baignoire, il serait dans la baignoire avec Jérém Star sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, on fait soit de la politique ou soit on fait influenceur. On ne peut pas faire les deux. Et aujourd'hui.
Et si on choisit de faire les deux, il faut accepter que des fois, on peut prendre le retour de manivelle. Quoi.
C'est ça. À un moment donné, moi, je suis sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Skerios. Je fais de l'humour sur la bêtise humaine et sur la politique.
Ah oui.
Et derrière, Des fois, on prend des insultes ou ainsi de suite, mais je les assume, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
J'assume.
Emmanuel, mes deux camarades ont tout dit, Joël, que c'est pas correct de se moquer de lui parce qu'il fait ce qu'il peut, il est là, il est digne par ailleurs, et en même temps Didier qui dit que pour être respecté, il faut être respectable et qu'avec le comportement qu'il a eu un peu extravagant avec sa carrure, son côté rouleur de mécanique,
mais justement dans ces cas-là,
on le loupe pas, raison dès qu'il y a un problème.
Mais il faut peut-être faire preuve de mansuétude si tu veux pas descendre à sa hauteur si tu veux et aller toi aussi railler.
Quand t'es le mec qui l'a refusé de tirer la main le jour du vote au Parlement et qui t'a dit
pas l'autre jour.
Toi tu me touches pas, à un moment donné, forcément qu'à la première connerie, ça va se retourner.
L'argument de
mépris, ça montre aussi que notre Parlement il fonctionne, parce que dans notre Parlement il y a pas que des énarques, quoi. Aussi des gens comme ça qu'on.
Oui, mais moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'idée de mépris classe. Je suis désolé. Moi j'avais une grand-mère qui avait fait certificat d'études. Oui. Certificat d'études, j'explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un examen qu'on passait à l'époque à la fin de l'école primaire. En général, on avait entre 11 et 13 ans. Ouais. Et la plupart des gens, d'ailleurs, n'allaient pas au-delà. C'était le seul diplôme qu'on avait. Et ma grand-mère, elle n'a eu que ça.
Juste lire, écrire, compter.
Voilà,
quoi.
N'avait que ça comme diplôme. Et puis ensuite,
l'équivalent du bac d'aujourd'hui.
Elle a travaillé, etc. Elle avait une écriture parfaite.
Ah oui.
Elle avait une orthographe parfaite. Ouais. Et elle avait des prix premiers prix de lecture. Donc le côté mépris social, non. Le mépris ça social, c'est méprisant de dire ça. Ouais. Je suis désolé. On peut être issu d'un milieu modeste. Et savoir parfaitement lire. Donc je trouve que cet argument de mépris social avancé par des gens de gauche, il est assez finalement révélateur.
Ça veut dire que c'est des gens de gauche qui s'est enfermé dans la
mais
casse.
Mais c'est des gens de gauche qui sont des bourgeois. Voilà, c'est tout.
Merci. C'est aussi le revers de la médaille quand tu fais lire ta femme de ménage, ton chauffeur. Ne soyons pas dupes. C'est par copinage qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, ce monsieur.
Oui, il n'est pas le premier.
Je veux bien croire qu'il a des compétences, mais dans l'entourage de Mélenchon, on arrive aussi à l'Assemblée nationale par copinage.
Non, je ne suis pas d'accord. Tu peux arriver par copinage à te présenter.
Ouais.
Ça, c'est une chose. C'est-à-dire, c'est le piston. Ensuite, c'est les électeurs qui.
C'est sûr que toi et moi, dans la circonscription de Boyard, on ne serait jamais élus.
C'est des circonscriptions aussi.
Si on veut être élu, on va trouver une autre circonscription.
Il y a des circonscriptions plus dures que d'autres.
Merci Cyril d'avoir été avec nous. Dans un instant, suite des GG, vous allez voir qu'on va rester dans le domaine de la politique. Joël, Emmanuel et Didier, parce que c'est le vice-président du Rassemblement national, M. Sébastien Chenu, qui sera avec nous.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard, c'est le Bol d'Or avec RMC. Le mythe de l'endurance moto est de retour pour une 87e édition. Village moto, show mécanique, exposition moto et un concert du groupe All In Joyce. Info Iresa sur boldor.com. Le Bol d'Or moto, jusqu'à dimanche, sur le circuit Paul Ricard avec RMC.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps. Cette semaine, c'est l'Open Blue Rennes, le tournoi majeur de tennis en Bretagne avec RMC. Au Liberté à Rennes, fêtez les 18 ans de l'événement de la rentrée. Richard Gasquet, Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, Benoît Paire, Pierre Hugerbert, qui remportera l'Open Blue Rennes. Rendez-vous cette semaine. Place des 4 euros sur opendoren.org avec RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. RMC Story qui est avec nous aujourd'hui dans les GG. Nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise du Touquet. Nous sommes avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Et puis Joël Dagosséry, la coach de vie parisienne. On va parler politique. Regardez ce qui peut arriver à l'Assemblée nationale au Premier ministre Michel Barnier.
RMC, les grandes gueules.
Et c'est Sébastien Chenu qui est l'invité des GG. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, député du Nord. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, pour l'instant, le Rassemblement National a décidé de laisser sa chance au produit, en quelque sorte, à Michel Barnier, en ne censurant pas tout de suite ce nouveau Premier ministre. Mais si jamais Michel Barnier choisit des personnalités de gauche dans son gouvernement, Ségolène Royal a déjà fait des offres de service. Est-ce que ça change la donne? Et est-ce qu'à ce moment-là, vous allez dire « bah non, c'est pas possible, on censure ».
D'abord, pourquoi est-ce que nous avons laissé à Michel Barnier la possibilité de dérouler, en tout cas de présenter sa feuille de route à travers une déclaration de politique générale à venir? C'est parce que nous, à l'inverse de la gauche, on ne souhaite pas le blocage du pays et le blocage des institutions. On considère qu'il fallait bien un moment nommer un Premier ministre. On a pris acte que ce Premier ministre ne pourrait pas être issu de notre famille politique, ne portait pas nos couleurs. Et Marine Le Pen a conditionné le fait de ne pas déposer une motion de censure a priori, immédiatement, au fait d'avoir un Premier ministre qui, au moins déjà, soit respectueux de ses adversaires. Résultat, Michel Barnier a été nommé. Ensuite, Michel Barnier va former son gouvernement. Moi, je crois que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de ligne politique. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de savoir si Ségolène Royal, c'est amusant sur la forme de voir revenir tout le vieux monde qu'Emmanuel Macron avait tant décrié, mais que ce soit Ségolène Royal ou Jean-François Copé, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la ligne politique de Michel Barnier. Donc, on va pas censurer des gens parce que ils prennent des responsabilités. On va censurer des gens ou pas en fonction d'une ligne politique et en fonction de textes. Et là encore, on a mis Marine Le Pen a mis des conditions, des priorités. C'est le pouvoir d'achat des Français, avec un effort et des propositions que nous avons fait sur les salaires, c'est l'immigration, c'est la sécurité, bref, le quotidien des Français. Les Français n'ont pas voté pour voir revenir, évidemment, ni Ségolène Royal, ni que sais-je, Jean-François Copé.
Mais la première mission, c'est de faire un budget. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts pour essayer de combler nos déficits?
Non, enfin, évidemment, si vous dites si la sortie des élections législatives et européennes a pour résultat d'augmenter les impôts, de reprendre toutes les mêmes vieilles recettes qui n'ont pas eu de succès, c'est évidemment l'inverse du message qui a été envoyé par les électeurs.
Donc là, à ce moment-là, vous pourriez censurer Michel Barnier s'il décide d'augmenter certains impôts.
Mais on va voir. C'est pas, je veux dire, vous dites augmenter les impôts, mais ça se juge dans le cadre d'une politique.
Donc il y a
large,
les impôts qu'on peut
avec
augmenter,
des pas objectifs. Non, avec des objectifs.
Par exemple, l'ISF, s'il rétablit l'ISF.
Je ne vois pas l'intérêt de rétablir aujourd'hui l'ISF, dans la mesure où c'est un impôt qui impacte un nombre réduit de Français, qui collecte très peu, qui ramène très peu d'argent, qui coûte très cher à la collecte et qui est juste un symbole. Nous, on a proposé autre chose, un impôt sur la fortune financière plutôt que sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est autre chose, mais qui n'a rien à voir avec l'ISF, dont serait sortie d'ailleurs la résidence principale. En revanche, s'il allait par exemple sur la taxation des surprofits, ou sur la taxation des rachats d'actions, qui sont quand même...
Mais ça, c'est dans les tuyaux.
Oui, c'est dans les tuyaux.
Ça fait des années
que c'est dans les tuyaux. Oui, ou des armateurs, des niches d'armateurs, les niches sur les armateurs. Je sors de la commission des affaires étrangères. On parlait du budget de l'AFD. Je peux vous dire qu'il y a des milliards d'euros...
Qu'est-ce que c'est que l'AFD ?
C'est l'Agence française de développement. Il y a des milliards d'euros qui sont utilisés, pas forcément bien contrôlés, et avec des résultats tout relatifs. Donc, il y a probablement des choses à regarder de près, mais l'idée, c'est peut-être pas de dire on va commencer par taper les classes moyennes, parce que les classes moyennes et les classes populaires, en réalité, sont celles qui sont toujours mises à contribution. Moi, je pense que Michel Barnier devrait réunir... Pensons les partenaires sociaux sur une conférence salariale qui aurait comme objectif d'augmenter les salaires des Français en échange d'un gel des cotisations patronales. C'est moins de recettes pour l'État, mais ce n'est pas des pertes de recettes pour l'État, puisque ce seront effectivement de l'argent qui permettrait d'être réinjecté dans l'économie réelle et de donner du souffle à la consommation française.
Question, Didier. Ouais, moi, je me demandais, et si vous appelle dans votre camp, s'il appelle dans votre camp pour trouver un ministre, est-ce que vous participeriez à ce gouvernement? Enfin, quand j'étais à l'école, pour matérialiser les ensembles, on faisait des patates. On est presque de la même génération, on faisait des patates.
Exagéré, vous devez avoir 20 ans de plus que moi.
Oh, c'est pas gentil.
Je veux bien qu'une génération, ce soit.
Ça, c'est
parce
pas
que 25
pas
ans, mais enfin.
Là, on n'a pas tant d'écart que
mal,
ça,
c'est cher Chenu.
Je voulais être bienveillant, mais ça risque d'évoluer. Et du coup, je me disais que le point de croisement des deux patates entre Barnier et vous.
C'est bien parti, la fière est bien engagée.
Le point de croisement entre Barnier et vous, c'est un peu les ciotistes. Et est-ce que demain, s'il y a un ciotiste dans le gouvernement, c'est quelque chose qui peut vous donner des gages en dehors de la ligne politique? C'est quelque chose qui peut vous donner des gages? Est-ce que vous accepteriez de participer à ce gouvernement?
Non, parce qu'en fait, il n'y aura pas le Ciottiste. Je disais que je sortais de la commission des affaires étrangères. Il se trouve que mon voisin était Éric Ciotti. Donc, on a pu discuter un peu au-delà du budget de l'AFD. On considère donc que c'est un changement de logiciel dont on a besoin. Un virage à 180 degrés, c'est-à-dire tourner le dos à des politiques mondialistes, à des politiques ultralibérales, à celles qui étaient guidées par Emmanuel Macron, en tout cas identifiées par Emmanuel Macron comme des politiques basées sur le ruissellement. Tout ça n'a pas fonctionné. Et donc, il faut un changement à 180
donc
degrés.
Donc, pas de ministre RN chez Barnier.
Ben non.
Et pas de ministre Ciotti aussi, vos amis
autour d'Éric Ciotti. Mais vous servez à quoi, alors?
J'y viens. Mais Éric Ciotti l'a dit lui-même, comme je suis pas son porte-parole, j'ai pas besoin de lui souffler. Donc il a dit lui-même qu'il n'irait pas. À quoi on sert? C'est une bonne question, Emmanuel, parce que sur BFM, je me souviens, il y a 10 jours, Benjamin Duhamel m'a dit « Mais vous êtes la cinquième roue du carrosse, à quoi servez-vous donc ?» etc. Bon, il se trouve que 2 jours après, grâce à, je vais dire, le fait que... les députés RN aient indiqué qu'ils n'allaient pas censurer a priori Michel Barnier, eh bien, il a pu être nommé. Eh bien, on voit à quoi sert le Rassemblement National.
Oui, mais on peut empêcher... Je vous interromps, ne jouez pas les saboteurs en menaçant de censure, en faisant de la politique aérie, parce que c'est grave, là.
Mais
là,
ne pas y participer.
C'est la stabilité de la France, donc votre système de menace permanente à la censure, il est indigne.
Non, alors...
Vous avez dit, Jordan Bardella a dit sous surveillance, Michel Barnier. Oui, mais il a répondu, non, je suis sous surveillance des Français.
Non, mais Michel Barnier est sous notre surveillance, c'est-à-dire le premier groupe d'opposition du Parlement, il est sous notre surveillance. D'ailleurs, le Parlement contrôle l'action du gouvernement.
De la gauche aussi.
Donc, il est évidemment sous notre surveillance, comme il est sous la surveillance, je vais vous le dire, des agences de notation qui regardent ça de près, comme il est sous la surveillance des Français plus globalement.
Oui, mais pardon, mais
nous, on joue notre rôle.
Oui, vous jouez votre rôle, mais ce qui est le paradoxe, c'est que pour que Michel Barnier tombe, il faudra forcément que vous votiez avec la gauche. Voilà. Donc, le Rassemblement National devra expliquer à ses électeurs qu'il a besoin des voix de Mélenchon, enfin des amis de Mélenchon pour faire tomber Barnier.
Non, mais tout le monde a besoin de tout le monde dans cette Assemblée, puisqu'il y a 3 groupes et que personne n'a la majorité. Donc, ça veut dire que par définition, ou pour faire passer un texte, genre l'abrogation de la réforme des retraites, ou pour s'opposer, ou pour censurer, il y a forcément besoin, les uns ont besoin
de vos ennemis.
Mais ils n'ont pas besoin les uns des autres pour faire les mêmes choses, parce qu'ils souhaitent obtenir les mêmes résultats politiques. C'est un concours de circonstances à ce moment-là.
Oui mais vous devriez arrêter de continuer de parler de censure, et vous devriez vous dignifier. Vous avez commencé un peu pendant l'été, le RN devrait se dignifier. Vous avez viré Jean-Marie Le Pen, votre fondateur à qui vous deviez tout, donc n'en rajoutez pas.
Je ne comprends pas bien ça. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on manque de dignité en représentant, comme on le fait, les 11 millions de Français.
Quand on vire le fondateur de l'organisation,
c'est
peu commun.
Moi, j'étais pas, vous savez, moi, je n'ai jamais voté, j'en fais pas du tout un titre de gloire d'ailleurs, mais je n'ai jamais voté pour Jean-Marie Le Pen. Je votais pour d'autres à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement National, qui représente 11 millions d'électeurs, qui est la première force politique, est assez éloigné de tout ça et a fait, c'est vrai, s'est ouvert, lui aussi a fait évoluer son logiciel.
Oui, sans perturber le débat, vous êtes resté de droite sur l'ordre, sur la sécurité, sur l'immigration, mais vous êtes devenu de gauche sur l'économie et les finances publiques.
Mais tout ça,
comment voulez-vous qu'on s'y retrouve?
Non, mais tout ça, c'est des poncifs. J'ai l'impression de... désolé, mais
on est sûr de vos dépenses supplémentaires, vous en êtes fiers, très bien, mais par contre, on est sûr aussi de l'absence de vos recettes en face. Non. Donc vous allez creuser encore le problème de la France.
Cher Emmanuel, avoir une conscience sociale. Moi, je suis député du Nord, d'un territoire qui est probablement parmi les plus pauvres de notre pays. Avoir une conscience sociale, dire que l'État doit réguler, dire qu'on doit être au rendez-vous de la solidarité, dire que les pauvres ne peuvent pas être en tous les cas ceux à qui on demande toujours plus, que les Français modestes qui se lèvent pour bosser le matin, pour aller dans les usines, pour tenir ce pays
debout, pour les aides-soignants. Hein.
Non mais je ne voudrais pas pleurer, mais j'aimerais que vous ayez en tête.
Ah, vous êtes voisin parce qu'il est du Pas-de-Calais. Hein.
Avoir une conscience sociale, ce n'est pas être de gauche, c'est justement parce que la gauche a abandonné sa conscience sociale que les classes populaires s'en sont détournées.
C'est allé sans agressivité, c'est allé à la pêche aux voix.
Mais
derrière la pêche aux voix, il se passe quoi?
Non. Au-delà de ça, nous, on a fait des propositions. Je pense que les Français savent très bien quel est le type de société qu'on veut. Quand on parle de la réindustrialisation, quand on parle du patriotisme économique, quand on parle de la gestion des frontières, c'est très intéressant. Aujourd'hui, l'Allemagne vient de dire qu'ils allaient rétablir des contrôles physiques aux frontières. C'est exactement ce que nous avons dit pendant la campagne des élections européennes et on nous a moqué. Vous vous rappelez les questions? Ah, vous allez remettre les douaniers?
Non, non, mais vous êtes définitivement de droite sur l'ordre de la sécurité. Vous êtes de droite, c'est pas de contestation.
Mais c'est pas la question d'être de droite ou
de
gauche.
Mais vous êtes de gauche sur le reste.
Mais on n'a pas de.
Parce que vous avez viré Jean-Marie Le Pen.
Non, mais vous êtes sur un logiciel qui est un peu daté, Emmanuel.
Et finalement, il était au deuxième tour.
Joël a 20 ans de plus que moi. J'ai l'impression que vous en avez 50 de plus que moi.
Du coup, moi, ma question, il se passe quoi si Barnier se met en place, vous laissez faire, le gouvernement arrive et ils n'attaquent pas l'abrogation des retraites, de la réforme de la retraite. Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est quoi votre attitude?
C'est le Parlement qui va attaquer l'abrogation de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir.
C'est votre première niche.
Oui, c'est le 31 octobre. Ce sera intéressant de voir la position des groupes de gauche qui ont tapé sur des casseroles, mais ont fait réélire Elisabeth Borne. Donc là, il y a une possibilité de revenir sur cette réforme des retraites, de l'abroger, puis ensuite, évidemment, de se remettre autour d'une table pour voir comment faire évoluer les dispositions.
Donc c'est vous qui lancez le chantier.
Ça, c'est nous qui lançons le chantier. Michel Barnier, nous, j'allais dire, on va voir ce qu'il propose. Moi, quand je l'entends dire, il y a quelques jours, à l'hôpital Necker, il va falloir faire des économies dans la dépense publique à l'hôpital public, je suis interrogatif, car qu'on désadministratise, qu'on fasse des économies sur la suradministration de l'hôpital public, bien sûr, probablement, et c'est nécessaire pour remédicaliser les directions d'hôpitaux. Mais en revanche, dire devant des infirmiers, des aides-soignants, des brancardiers, des manipulateurs en radiologie, c'est ici qu'il faut faire des économies, je ne crois pas que le message envoyé par les Français, ce soit des économies sur la santé, l'éducation,
allons à la justice. Allons-y gaiement.
Alors, Joël Dagosséry.
Moi, je vais un peu sortir de M. Barnier et de votre menace de censure, pardon, à l'encontre du gouvernement futur, et aller sur une affaire qui est en ce moment en cours, dont on ne parle pas trop beaucoup. Ce sont vos affaires judiciaires, puisque je crois qu'il y a 27 mises en cause sur l'affaire des assistants parlementaires. Et comme vous êtes un parti qui était presque aux portes du gouvernement et que moi, je m'intéresse surtout au train de vie de l'État et à des personnes qui seraient assez responsables avec nos deniers, et notamment avec ce qu'ils font des comptes publics. Je m'intéresse sur votre capacité, si vous étiez un jour au gouvernement, si vous entriez au gouvernement, ou même si un jour vous étiez à la tête de ce pays, sur votre honnêteté et votre capacité à gérer notre argent et à le prendre au sérieux quand on voit quand on voit les accusations qu'il y a contre votre parti sur ses assistants parlementaires. Donc, je me pose des questions et qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ou peut-être nous rassurer?
Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, moi, je m'intéresse, je suis très attentive au train de vie de l'État. Vous avez donc dû noter, je vais répondre sur le fond de ça, que cette semaine est sorti un rapport expliquant que l'Élysée avait fait un énorme dérapage budgétaire du train de vie de l'Élysée. Je pense qu'il est bien aussi de le dire, parce que pendant qu'on regarde un procès sur lequel nous demandons à être relaxés totalement, et je vais vous expliquer pourquoi en quelques instants, il y a à côté de ça des gens qui mettent le feu aux finances publiques depuis des années. Bruno Le Maire nous livre une addition en partant qui est du jamais vu. Qui est du jamais vu en matière de finances publiques. Cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis, ancien responsable national du Parti Socialiste, a été condamné à la prison avec sursis. Michel Alliomari a été condamné aussi. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on braque les feux sur le Rassemblement National et on doit s'expliquer.
Alors, oui, probablement.
Mais n'oublions pas ce qui se passe.
Pardon, excusez-moi.
Non, mais dans le sens de Joël, il y a un livre qui vient de sortir, soyons factuels, précis. Il y a un livre qui sort là, le 13 septembre précisément, qui a été coécrit par Tristan Berthelot, le journaliste, qui s'appelle Machine à gagner aux éditions du Seuil et qui révèle que Jordan Bardella a été assistant parlementaire de Jean-François Jalques, ex-eurodéputé RN, et qu'il aurait a posteriori élaboré des documents factices et antidatés qui sont censés témoigner des tâches pour le compte de l'élu qu'il n'aurait pas réellement effectué.
Alors, il ne révèle rien du tout. Tristan Berthelot est un militant politique avec une carte de presse, mais c'est un militant politique qui fait de la lutte contre le Rassemblement National l'alpha et l'oméga de sa vie professionnelle. Donc ça aussi, il faut savoir, c'est ce qu'on disait en 68, dis-moi d'où tu parles, et donc voilà, d'où parlent ces gens, ce sont des adversaires politiques. Dans le procès auquel vous faites allusion, il n'y a évidemment, il ne révèle rien, tout le monde savait que Jordan Bardella avait été collaborateur de Jean-François Jalques.
Mais il aurait mis en place des documents prouvant mais ça, qu'il a fait un boulot qu'il n'a pas fait.
C'est une supputation que nous contestons formellement.
Il y a un message, il y a un échange sur une messagerie avec d'anciens membres du parti qui laisse entendre qu'effectivement on a créé de faux dossiers pour des assistants qui n'ont jamais travailler pour le Parlement européen.
Nous contestons ça formellement. Il n'y a dans ce dossier aucun enrichissement personnel. C'est important de le dire, parce qu'il ne faudrait pas que les Français imaginent qu'on a pris de l'argent et qu'on l'a mis dans notre poche. Aucun enrichissement personnel, aucun emploi fictif. C'est important de le dire.
Donc Jordan Bardella a effectué un vrai travail d'assistant lorsqu'il est assistant parlementaire.
Évidemment, et je crois que ça a duré 3 mois, je crois que le temps était très court. Le dossier dans lequel nous sommes mis en cause, c'est le même d'ailleurs que François Bayrou, qui a été relaxé dans ce dossier, le même que Jean-Luc Mélenchon, qui devra répondre de la même façon
pour à peu jugé, près mais...
les mêmes éléments dans quelques semaines. C'est quoi ? C'est qu'en fait,
donc
le Parlement...
faisait la même chose.
Le Parlement, mais je veux dire pourquoi ? C'est simple. Le Parlement européen veut que les collaborateurs des députés travaillent au bénéfice de la structure Parlement européen, mais ne contestent pas, à travers leur travail, la structure du Parlement européen. Nous, nos collaborateurs, sont aussi, en plus, au-delà des professionnels, des militants politiques. Ils ne travaillent pas au bénéfice du Parlement européen, ils combattent ce qu'est, au bénéfice de l'Union européenne, pardon, ils combattent ce qu'est cette Union européenne, mais c'est tout à fait normal, ils ont été élus pour cela, en tout cas leurs patrons ont été élus pour cela. Donc ils ont aussi des engagements politiques à côté.
Non seulement vous n'êtes pas anti-système, puisque apparemment vous faites comme tout le système, donc,
non,
la
on combat le système, c'est pour ça qu'il nous tombe dessus, madame. Non. On combat l'Union européenne, il nous tombe dessus.
Concernant Jordan Bardella, je rappelle ici que nous avons affaire à une personne